artistes de la folle journée de Nantes interprètent les plus belles œuvres pour piano de Frédéric Chopin. Retrouvez le journal musical de Chopin dans Carrefour de l'Odéon à 16h à partir du 18 janvier. France Inter, la différence.
Il est 15h04, c'est l'heure de Là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Il est toujours joli, le temps passé, une fois qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, les morts sont tous de braves types. Salut ce gars.
Salut à toute l'équipe, c'est Françoise du repère d'Aner dans les Hautes-Pyrénées pour informer tous les AMG de la région que nous nous retrouverons ce vendredi 8 janvier au Café du Village pour voir Marie-Carmen Espagne, The End of Silence. Il s'agit d'un documentaire suédois où une jeune Andalouse se bat pour sortir le corps de son grand-père de la fosse commune où les soldats franquistes l'ont jeté il y a 7 décennies. Les deux réalisateurs, non seulement suédois mais idéalistes, vont remuer ciel et terre pour l'aider. La projection et le débat qui suivra se dérouleront en présence de José Cubero, historien de la guerre d'Espagne. Voilà, le film sera projeté vers 21h, mais auparavant, comme d'habitude, nous vous invitons à nous rejoindre vers 20h pour casser la croûte et boire un coup. Et comme c'est la saison des vœux, longue vie à Là-bas si j'y suis, et souhaitons que nous puissions longtemps continuer à nous élever contre tout ce qui nous révolte.
Salut Daniel, salut les AMG. Voilà, j'ai 18 ans, et certes, il neige dehors, c'est très beau, mais il n'empêche que j'ai peur pour l'avenir. Merci de votre émission. Au revoir.
Bonjour là-bas. Déjà exceptionnellement pour cause de passage à la nouvelle année, avec une forte probabilité de gueule de bois carabinée, nous avons préféré nous réunir ce samedi 9 janvier au lieu du 2. Et pire, vu que le café lâche a changé de proprio et d'ambiance, on va devoir aller se refaire le monde ailleurs. Ceux qui espéraient qu'on allait se trouver un café au bazooka ou au minimum à l'Opinel vont rester sur leur faim. On se retrouve en effet ce samedi à 15h à la Perestroïka, si si ça existe, aux 2 rue Tiergarten, pas loin de la gare. Alors, à samedi 15h au bar La Perestroïka à Strasbourg, pour une cérémonie de vœux à exaucer nous-mêmes, c'est plus sûr. Merci là-bas.
Moi, ça m'embête parce que maintenant, j'écris sur des feuilles volantes. Je tiens plus un cahier. Alors, les feuilles volantes, évidemment, je les pose n'importe où et je ne retrouve pas. Et alors, ça m'embête parce que pendant les vacances de Noël, là, je me souviens, il m'est venu une formule comme ça, qui disait à peu près, la post-modernité, c'est le passage de la conscience à la vidéosurveillance. Et alors figurez-vous que cette nuit, j'ai vu la rediffusion du soir 3, donc du mercredi 7 janvier. Et alors là, une nouvelle qui est passée comme ça, figurez-vous qu'il y a une commune en Seine-Saint-Denis, dont l'église sert à planter les caméras. Et alors le curé, ça commence à embêter, il tarde un peu à réagir quand même. Parce que ça fait déjà 2 ans. Alors voilà, l'église maintenant, ça sert à surveiller les gens. Et il a dit un truc pas mal, le curé, il a dit... c'est embêtant quand même parce que nous cherchons plutôt à susciter les consciences. Alors j'ai trouvé un écho à ma formule, quoi. Dieu, la République, c'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend ce qu'on met derrière. Et l'autorité républicaine est aussi monstrueuse que l'autorité ecclésiastique d'autrefois. Et alors, c'est pour ça, quand j'entends le mot laïque, je sors mon revolver, comme dirait l'autre. Mais ça, c'est des trucs que tu peux pas passer, évidemment, Daniel. Comme disait l'autre, il faut pas désespérer Billancourt. Mais alors, la question de la laïcité, là, j'ai des trucs à dire, vraiment. Et je suis scandalisé par la manière dont elle est utilisée de nos jours. Et voilà, il fallait bien que je le dise, puisque c'est ça que je pense. Et voilà, c'est dit. Merci pour ces messages, chers auditeurs. Alors, on est en vigilance orange, on est dans la neige et dans le verglas. Vous êtes peut-être coincé dans un train quelque part et vous avez encore un peu de batterie ou dans votre voiture, coincé sur l'autoroute, vous dites, oh là là, vous voyez la jauge d'essence qui descend pour chauffer votre voiture, mais aussi écoutez France Inter et là-bas, si j'y suis. Et on a pensé à vous, bien sûr, mais on ne pense qu'à vous, jour et nuit, et là, on va vous emmener dans un paradis. Alors là, c'est le paradis des paradis, imaginez, vous n'allez même pas imaginer, puisque vous allez le vivre à partir de, dans 2 minutes, même pas 3 minutes tout au plus, une douce chaleur, ordre, beauté, luxe, calme et volupté. C'est le Kerala, c'est le sud de l'Inde où nous sommes et précisément les Backwaters. Les Backwaters, c'est, vous allez voir, c'est un ensemble de canaux, de plans d'eau, de lacs qui s'étendent sur des centaines de kilomètres le long de la côte Malabar, le long de la mer d'Oman. Et c'est un endroit magnifique, magique, touristique, enchanteur, doux, chaud. Exactement le contraire de ce que nous sommes en train de vivre et de subir ici. Donc, évasion pendant 1 heure grâce à là-bas si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Je voudrais parler de l'AGCS. Écoutez bien ce mot AGCS, accord général sur le commerce des services, aussi appelé partenariat économique transatlantique, qui a été signé par tous les libéraux européens, poussé par les États-Unis en 98. Document dont on peut lire ce qui est prévu pour la suppression de tous les services publics, pour en faire un commerce en privatisant tous ces services. Citation du commissaire européen en l'an 2000, on est en 2009, l'Europe est prête pour la libéralisation de l'éducation et de la santé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors que notre gouvernement arrête de nous faire avaler les soi-disant modernisation de l'économie, modernisation de l'éducation et de la santé, toute la politique depuis 7 ans n'est que l'application de cet AGCS. Alors il suffit d'expliquer aux Français que tout ça est bien prévu depuis 98. Qu'attendent nos politiciens de gauche? Peut-être ont-ils signé l'AGCS? Allez, c'est Franck de La Rochelle.
Salut, c'est Will du Tarn. C'est pour annoncer projection de film Chomsky et compagnie samedi au Poétique à Mazamet. En attendant Chomsky et le pouvoir, on se fait une petite séance de rattrapage ou de découverte pour ceux qui l'ont pas vu. Donc samedi à 15h. Merci.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe. Grégoire de Saint-Quentin.
Ce matin, en écoutant la radio, j'ai dû me frotter les oreilles à plusieurs reprises pour être sûr de bien comprendre ce qu'on me racontait. Malheureusement, il semble que j'ai parfaitement saisi. Depuis le 1er janvier 2010, en Irlande, il est interdit de blasphémer. Il y a un délit de blasphème avec une amende pouvant aller jusqu'à 25 000 euros. Le tonnerre de Zeus, c'est merveilleux. Une seule question me taraude depuis. À quand le retour de la Sainte Inquisition?
Ouais, salut à tous. On se retrouve ce soir à 19h au Latitude à Tourette pour le repère chez Pascal et Nico. Par contre, le repère s'arrêtera aux alentours de 20h-20h15 parce qu'à 20h45 à la Maison pour tous de Montauroux, il y a Augustin Legrand qui vient présenter le film des enfants de Don Quichotte et à la suite de ça, il y aura un débat. Ciao, vive, portez-vous bien.
En français, la grande, la rame, l'espèce de grande, le grand morceau de bois avec lequel cet homme est en train de manœuvrer, de faire avancer son bateau, peut-être de pêcher, peut-être de tourner en rond s'il en a envie. En français, ça s'appelle une pigouille. Dans le marais Poitevin, on appelle ça une pigouille.
It's called pangaem. Ici, on l'appelle pangaem.
C'est presque pareil, pangaem, pigouille.
Yeah. Pretty close.
Voilà d'où vient le mot pigouille. C'est vous ou c'est vous qui avez piqué le mot pigouille au français? Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la basse où je suis avec Guy Van Cotil, Kerala, Backwaters.
Flight number 2, arriving
Dis-moi, où on est là?
At the moment we are in Alapi. This place is famous all over the world for its backwaters, Alapi. Right now we are in a boat.
Alapi sur un bateau et c'est un endroit qui est connu dans le monde entier que pour ses canaux. Alors c'est vrai, c'est assez extraordinaire le décor. C'est un petit bateau. Un moteur, on voulait un bateau sans moteur, mais on n'a pas pu, on n'a pas réussi. Et devant nous, oh la lumière est absolument magnifique. Le jour descend peu à peu, c'est une ambiance tropicale, une chaleur idéale, des oiseaux qui frôlent l'eau. C'est magnifique, des oiseaux noirs, des oiseaux blancs. Là, une île devant nous avec de très grands cocotiers, une seule maison sur l'île. C'est absolument paradisiaque. Là, il y a quand même des bateaux avec des rames. Il y a une dame qui a réussi à trouver quelqu'un pour ramer pour elle. Là, c'est vraiment les touristes dans toute leur splendeur qui font ramer les autres, hein, qui sont vachement heureux, qui s'éclatent bien et qui nous font signe. Avec le monsieur qui rame, qui est très content lui aussi, qui nous fait signe aussi. Mais alors, le début de la promenade, c'est un peu mal parti, parce qu'à l'endroit où on a embarqué, il y avait parmi les bouteilles de plastique prises dans les jacinthes d'eau, le cadavre d'un chien. Le chien crevé, quoi. Alors, c'est un petit peu dommage, ça. Un petit peu endommagé le début de cette promenade idyllique,
alors que notre guide touristique nous avait promis la Venise de l'Inde.
Moi, ouais, je pense qu'il faudrait parfois, enfin, avoir quelques doutes envers les guides touristiques. Peut-être, peut-être. Ouais. Je ne veux pas être trop critique. Charme de la croisière opère dès l'embarquement. Exalté par les paysages défilant le long des rives et miroitant sur les eaux quasi statiques des canaux. De part et d'autre, manguiers, goyaviers et cocotiers s'épanchent par milliers sur les flots. Des tapis de nénuphars s'étirent sous les filets chinois. Des vols d'ibis et de cormorans ponctuent le ciel brumeux. Des pêcheurs s'affairent sur leurs pirogues en bois, tandis que le rire des femmes, sillonnant les chemins de halage, viennent troubler la quiétude matinale. L'atmosphère se fait doucereuse, bucolique, et l'on s'enivre avec régal. Des effluves parfumées qui s'échappent de la cuisine du bateau. Au menu, curry de betterave, soupe de lentilles et pearl spot, poisson des backwaters. Le tout présenté sur une feuille de bananier, l'assiette locale. Voilà. Voilà, c'est ainsi que dans le numéro du 19 mars 2009 du Point, du journal Le Point, on évoque l'Inde du Sud. N'est-ce pas merveilleux? Des pages comme celle-ci, on en trouve dans toute la presse, notamment dans la presse magazine, et n'allez pas dire propagande, n'allez pas parler de propagande. Ces pages sont payées par les offices du tourisme, on s'en doute bien. Des journalistes vont là-bas ou n'y vont pas et écrivent ces pages enchanteresses qui nous donnent évidemment à tous envie d'évasion, envie d'ailleurs, envie de nouveaux horizons enchanteurs. Or, le tourisme génère 11% du produit intérieur brut mondial et emploie 200 millions de personnes, mais produit 5 millions de tonnes de déchets par an et consomme autant d'énergie qu'un pays comme le Japon. Le nombre de touristes devrait plus que doubler pour atteindre 1,6 milliard en 2020, ainsi s'exprime le programme national le programme des Nations Unies pour l'environnement. On ne dira jamais assez à quel point de plus en plus, chaque jour un peu plus, le tourisme détruit, le tourisme pollue non seulement l'environnement, mais aussi la société. Chaque année, près d'un milliard, les sociétés autochtones, chaque année, près d'un milliard de personnes partent en vacances à travers le monde et leur pérégrination rime souvent avec dégradation de l'environnement et des vies des autres et des sociétés. Voilà. Vous étiez là en train de dire, oh, on n'a pas de chance, on est coincé, on aimerait y aller. Et puis ce que je viens de vous dire là vous console. On dit, oh, finalement, on est pas mal ici. Entre là-bas, ici, c'est là-bas, si j'y suis, jusqu'à 16h, Kerala, Blackwater.
Alors voilà, on est en train de longer
des grands bateaux maison, houseboat, qui sont faits de bambou, de paille et de bois et de cordes, et qui sont des copies des maisons bateaux sur lesquelles vivent des gens, toute une cité d'eau comme ça, qui longe les côtes du Kerala sur des centaines de kilomètres.
In the past, it was few houseboats when it started 10 years ago, but now over 600 houseboats operating in this backwaters.
Il y a 10 ans, il y avait juste une dizaine de houseboats, mais maintenant il y a 600 houseboats ici.
Mais est-ce qu'il y a des vrais gens qui vivent vraiment sur ces bateaux?
Not really, because all these boats are tailor-made for tourists.
Tous ces bateaux sont faits pour les touristes.
Those are the places they make the houseboats, just behind us. You can see the building of houseboats going on over there.
C'est le chantier là-bas où on construit les houseboats, juste derrière. C'est vrai qu'on voit les gros bateaux à houseboat tourisme, mais c'est carrément une salle à manger avec table et télévision et moulure. Tandis que là-bas, on voit sur un petit bateau une femme, un homme qui rame. Ça, c'est les gens du coin.
Ouais,
c'est
les autochtones. C'est blanc, c'est beau en plus. Hein.
Qui essayent de se faufiler.
All the days, all this area was living by fishermen, but as you can see, beautiful resorts coming up. It's just behind us, you see. So, it's basically a tourist invasion going on in this place.
Au départ, tous ces endroits, tous ces quartiers étaient habités par les pêcheurs. Mais comme on peut voir, il y a beaucoup de constructions maintenant, beaucoup d'hôtels qui se développent. Et on peut voir l'invasion touristique ici.
Et c'est marrant parce que pendant ce temps-là, on passe devant une pub justement pour un resort luxurieux, Backwater Resort, un centre touristique de luxe sur les Backwater. Il y a écrit « More water, more happiness ». Plus d'eau, plus de bonheur. Il faut bien comprendre qu'on est dans des régions du monde où on dit l'or bleu. L'or bleu. Les Français n'arrivent pas à comprendre ça parce qu'on n'a pas encore ces problèmes-là, ou peu encore ces problèmes-là. On a de l'eau, il pleut, c'est vert, tant mieux pour nous. Mais ce n'est pas le cas des trois quarts de la planète qui rencontrent des problèmes avec l'eau, avec la privatisation de l'eau. C'est d'énormes problèmes actuellement, plus le réchauffement. La marqueterie infinie des rizières verdoyantes, les hauts massifs noyés de brume, les plages frangées de palmiers, la quiétude éternelle des backwaters satisferont tous les amoureux de beauté naturelle. Encore un extrait d'un guide touristique. Vous avez compris, les backwaters, qui sont appelés aussi kayals, forment un labyrinthe, c'est-à-dire un réseau de lagunes et de rivières, de canaux et de lacs qui s'étirent sur plus de 240 000 hectares le long de la côte occidentale du Kerala, entre Kochi et Cochin, Alappuzha et Kolam. Et c'est très beau, c'est vrai, ça forme un cordon de terre sépare ce dédale aquatique de la mer d'Arabie avec laquelle cet ensemble communique. Mais il y a une terrible, terrible et terrifiante pollution sur ces backwaters Les rivières sont gravement polluées par des rejets industriels. Selon un rapport publié en 2005 par le Conseil du Kerala pour la science, la technologie et l'environnement, environ 260 millions de litres d'affluents toxiques sont déversés chaque jour dans la rivière. Mercure, phosphate, sulfate, dioxine, ammoniac, fluorite, pesticides, zinc, cuivre, aluminium, plomb et même des éléments radioactifs sont allègrement déversés dans les eaux des backwaters par les 247 usines de l'île Taylor, le troisième site industriel le plus pollué du sous-continent indien. Et tout ça, quand on remonte, c'est Cochin, qu'on a surnommé Asthma City. Asthma City, la cité de l'asthme. C'est pollution notoire. Il faut ajouter aussi les pesticides, les engrais agricoles, les hydrocarbures rejetés par les bateaux à moteur, les ordures et les eaux usées vomies par les hôtels de tourisme. Voilà. Un paradis pourri, un paradis perverti, mais on vous cache ça, on vous cache ça, il faut rêver. L'élévation du niveau de vie d'une partie des Indiens, 300 millions qui grâce à ce virage néolibéral se sont enrichis, eh bien, ça développe le tourisme à l'intérieur du sous-continent. C'est pas seulement les étrangers qui viennent faire du tourisme en Inde. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, surtout dans cette région, mais il y a aussi le tourisme intérieur, et cette région est très touristique.
The issue brought in by this increase of tourism here is basically the pollution. Over 600 houseboats operating, so there is not a proper place to put its weight. Et donc, les conséquences de ce tourisme et de cette attraction pour les canaux, c'est la pollution. Plus de 600 bateaux, et qui dit bateau hôtel dit eau usée où il n'y a aucune manière de les récolter. All these boats operating with bottles which use a lot of diesels and fuels. Et puis après, il y a aussi que tous ces bateaux à moteur font bien sûr des dégâts avec le diesel qui est dedans. And as we can see, a lot of plastic bottles and remains left by the tourists here. Et ce qu'on voit aussi, c'est des quantités de bouteilles de plastique qui flottent un peu partout. Tout ça sont des conséquences du tourisme.
But as you can see, why people coming here, this is really beautiful. But if things, the tourism goes this way, it's going to ruin everything.
C'est bien que les étrangers viennent ici passer leurs vacances et qu'ils trouvent cet endroit très beau. Mais c'est dommage ce que le tourisme a fait à cette région, tous les dégâts qui ont été faits.
The good thing for the people for tourism is because the land price has gone up. So people basically losing their place, but they're getting good money out.
Et une autre conséquence du tourisme, c'est la spéculation sur le prix de la terre. Et donc, les gens vendent leur maison, vendent leur terrain, et du coup, ils sont plutôt bien payés, mais ils s'en vont. Et là, ce qui est agréable, c'est que notre pilote a coupé un peu le moteur. On dirait que c'est agréable, il doit avoir envie de nous faire profiter du paysage. Il y a un peu de silence, mais non, c'est qu'il est en train de téléphoner, il a son portable qui a sonné. Et comme le bruit du moteur le gênait pour parler, il a baissé la manette. C'est vrai que c'est magnifique, regarde la petite île là. Et puis alors, devant, au bout de cette île, ça
commence la brume descend. Le jour descend, la lumière est superbe. Il y a juste encore un bateau devant nous. Une pirogue avec deux pêcheurs, là-bas avec un seul. Là-bas dans la lumière, un bateau. Ah oui, il y a plusieurs bateaux qui viennent vers nous. C'est immense. Oh. Oh, c'est formidable quand ça s'arrête. Hein. C'est pour ça que ça a été inventé, le moteur des bateaux, c'est pour ce bonheur qu'on éprouve quand ça s'arrête.
Maintenant, nous sommes au milieu de Vembanatukael, le lac qui s'appelle Vembanatukael.
More than 600 houseboats, they're dumping everything in this water.
Il y a plus de 600 bateaux, houseboats, qui jettent tous leurs déchets ici dans cette eau.
And the biggest problem, because most of this island don't have drinking water. So they use this water traditionally to drink. But a recent study shows that a lot of people got cancer.
Le plus grand problème et le plus grave problème, c'est que la plupart des gens qui vivent sur les îles, ils dépendent de cette eau pour leur eau potable, pour l'eau à boire. Et il y a des études qui révèlent que l'incidence du cancer a vraiment augmenté dans cette région.
J'étais en train de me dire quel silence, c'est beau, on va offrir une minute comme ça de sérénité avec une musique jolie au loin, des quelques bruits d'oiseaux, le silence enfin, la langue magnifique que parlent nos amis. Eh ben non, ça a duré 1 minute 12 secondes, ce qui est beaucoup, c'est vrai. Et aussitôt, on reparle pollution, cancer, misère des habitants menacés.
Il y a un nouveau projet en ce moment qui est en place où ils essayent d'attraper l'eau de la pluie
pour convertir ça en eau potable pour les gens qui habitent ici.
Récupération d'eau de pluie pour faire vivre les gens du coin, qui vivent dans l'eau depuis des siècles. On est obligé de faire encore un petit truc charitable dans un coin avec une ONG qui va faire la quête pour essayer de dire voilà, ils sont en train de mourir, donner un petit peu d'argent pour récupérer un petit peu d'eau de pluie pour qu'ils puissent vivre un tout petit peu plus longtemps. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et d'ailleurs, voilà la photo de leur enfant qui a un cancer de la gorge. C'est ça, quoi. C'est l'ONG, c'est l'humanitaire. La solution, elle est humanitaire. Bon, les Naxalites, tu n'y crois pas, toi?
Well, Slash did good jobs in some part of India, but not in Kerala. In Kerala, we have different communism.
Les Naxalites ont fait du bon travail ailleurs, mais pas au Kerala. Au Kerala, nous avons le bon vieux communisme.
Voilà, mais qui travaille là-bas si j'y suis? Voilà le genre de collaborateurs que dégotent là-bas si j'y suis, des jeunes des terroristes et des marxistes-léninistes, staliniens. C'est marrant.
Tout ça avec l'argent du contribuable
français. Allez, on se refait un petit peu de silence. Petite île, c'est vachement beau la lumière.
Et de l'autre côté, il y a des rizières, ouais. Voilà. C'est vraiment le peuple de l'eau, quoi. C'est juste une langue de terre, avec cette dame qui est en train de faire le ménage, dans ses noix de coco, parce que c'est des très hauts cocotiers devant nous. Et de l'autre côté, c'est des rizières. Voilà, il y a quand même des gens qui se déplacent tout simplement en pirogue, là. Blackwater, le Kerala, magnifique paysage, magnifique lieu. Alors, on déplore, évidemment, je viens de le faire, et on le fait de plus en plus, avec raison, les atteintes à l'environnement qui sont de plus en plus catastrophiques, face auxquelles on essaye de trouver des répliques, des solutions, on se mobilise, et les gens du coin, à commencer par eux-mêmes, se mobilisent et s'interrogent, mais on oublie qu'il y a une autre pollution, c'est peut-être l'essentiel quand même, c'est la pollution humaine, la pollution des atteintes au peuple, aux gens, à la population, qui subissent une pollution à plusieurs niveaux, dans le fait qu'ils sont dépossédés de leur propre paysage, qui devient un décor, dont très souvent ils deviennent les larbins, ceux qui entretiennent, qui coupent les haies, ou qui conduisent les touristes, et souvent c'était leur paysage, et souvent c'était leur pays, c'était leurs îles, c'était leur maison. Voilà pourquoi nous nous arrêtons le long de cette île, cette bande de terre comme ça magnifique, alors que le jour descend. Ça sent bon, hein, les cigarettes, les bindi. Bonjour. C'est votre maison ici?
Oui.
C'est notre maison. On a construit cette maison. On fait tout, on s'occupe de tout, de la rizière, de tout.
Et vous avez toujours vécu ici sur l'île?
Ah,
vous êtes combien habité comme ça sur des îles ici?
Il y a presque 2000 personnes qui habitent ici. Il y a 150 maisons. Il y a beaucoup d'îles comme celle-ci.
Alors la vie a changé depuis que les touristes sont arrivés avec les gros bateaux maisons.
La pollution pose effectivement un grand problème, la pollution causée par les touristes qui jettent le plastique, etc., dans l'eau. C'est parce que c'est dans cette eau qu'on se baigne, c'est cette eau qu'on boit. Ça cause un vrai problème. Nous avons manifesté devant la préfecture il y a 7 mois. Notre manifestation était pour protester contre les déchets qui sont jetés dans l'eau, et aussi contre le diesel que les bateaux ont commencé à utiliser. Ça pollue notre environnement, et comme nous sommes dépendants de l'eau et que nous vivons ici depuis des années, Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans ces circonstances.
Alors, comment vous êtes organisé?
Cette manifestation a été organisée par le CITU. C'est un syndicat du Parti communiste de l'Inde au Kerala.
Ah, et donc vous êtes communiste vous-même? Ah oui?
Oui. Nous soutenons le Parti communiste.
Mais alors, est-ce que vous êtes marxiste-léniniste? Hein? Vous êtes marxiste-léniniste? Adam, elle dit oui. On est marxiste.
Je suis marxiste-léniniste. On est tous marxiste-léniniste.
Vous êtes tous marxiste-léniniste?
Oui.
Toi aussi, mais tu as quel âge?
J'ai 11 ans.
11 ans déjà marxiste-léniniste. Ah bah alors ça on s'y attendait pas. Nous on voulait faire un petit sujet de promenade sur l'eau. Et quand on est arrivé, on a vu des bouteilles de plastique dans l'eau, on a vu un chien crever. Il est assez impossible de couper le moteur. On s'est dit mais comment des gens peuvent vivre? Surtout que ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas de puits ici, donc vous êtes obligé d'utiliser l'eau des canaux, c'est votre eau.
On dépend entièrement de cette eau. On fait bouillir l'eau tous les jours.
C'est vrai,
vous avez la consommer. L'utilisation de cette eau provoque beaucoup de maladies dans cette région, depuis la diarrhée jusqu'au cancer. Le nombre de personnes atteintes du cancer ici a tellement augmenté que c'est un grave problème maintenant. Et même dans les rizières, avant, on utilisait de l'engrais biologique, organique, et maintenant, on ne peut plus l'utiliser. On utilise des engrais chimiques.
Oui, mais le pilote du bateau. Alors, toi, tu as manifesté avec les habitants contre la pollution?
Je n'ai pas manifesté, mais ma femme, toute ma famille a manifesté.
Parce que toi,
devant la préfecture.
Toi, tu as le cul entre deux chaises. Tu vis du touriste avec ton bateau à moteur, et avec ton moteur, tu salopes l'environnement, quoi. C'est une contradiction, mais je te comprends, hein, mais c'est une contradiction.
Même ceux qui travaillent sur les houseboats ont manifesté. Ça, c'est leur vie professionnelle. Ils dépendent des touristes, ils doivent gagner leur vie, mais en même temps, ils sont conscients que ça a une incidence très grave sur leur vie personnelle. Donc, tout le monde a manifesté, tout le monde est contre ce phénomène.
Et où est-ce qu'elle est la patronne? Et quelle est la solution, la patronne? Quelle est la solution? Supprimer les touristes?
Nous ne pouvons pas dire non aux touristes non plus. Parce que tout le monde doit gagner un salaire. Il y a beaucoup de gens qui dépendent ici du tourisme.
Ben oui. C'est des vaches à lait, quoi, le touriste.
Donc nous ne pouvons pas nous opposer au tourisme. À cause du diesel utilisé par les bateaux, même le poisson qu'on pêche a l'odeur du diesel.
Ce soir, on va se trouver un petit restaurant sympa, on va demander du poisson. Et on va penser à toi, et on va manger du poisson avec le goût du diesel.
Listen, let's move.
C'est vrai, vous allez vous-même vivre cette expérience, vous comprendrez.
Ça, c'est des vrais écolos, là. Hein.
Yeah.
On n'est pas chez Nicolas Hulot, là.
Oui.
Ok.
Ok, bye.
Bonne chance. Encore un paradis pourri. Enfin, heureusement, il reste le bruit des portables et des moteurs. Voilà. Et des bouteilles en plastique qui flottent à la surface de l'eau. C'est quand même très très beau. On a rencontré des paysans, des pêcheurs, qui sont très en colère, ces pêcheurs, parce que il n'y a pas de puits. Donc cette eau, ils l'utilisent pour faire tout, pour tout ce qui est nécessaire à la maison. Leurs poissons sont pollués, tout est pollué. Ils nous disent aussi qu'ils s'organisent, qu'ils protestent, et qu'ils essayent de faire valoir leurs droits pour se défendre. Alors, eux, ils pensent que c'est le c'est à cause de la biodiversité qu'il y a du tourisme, mais le tourisme tue la biodiversité. Ouais, oui, parce que ça correspond vraiment ici à la branche sur laquelle on est assis. Voilà, terrible contradiction. Je le disais en commençant, les gens de la région du Kerala se préoccupent de ces problèmes-là. Ou bien parce que, comme on vient de le voir, ils habitent et là, ils sont obligés de se préoccuper de leur propre vie, de leur propre sort. Ou bien, comme celui avec qui nous nous trouvons maintenant, le professeur Padma Kumar, qui est enseignant, qui est chercheur et qui est expert en biodiversité. Il fait partie de ceux qui, au Kerala, se préoccupe profondément, gravement de ces questions. You're cutting the brand, John Major. Because, you know, several universities take this as an example, how human intervention can kill an ecosystem.
C'est même devenu un sujet de recherche dans plusieurs universités, c'est de voir comment l'intervention humaine peut détruire la biodiversité.
We teach our students. For example, this area is the wetland.
C'est ce qu'on enseigne à nos étudiants. Ici, par exemple, dans cette zone humide.
The backwater area, rich in fish life, because connected to the sea. Sea fish come here, breed here, go back.
C'est très intéressant de voir qu'ici, dans les zones de canaux et des zones humides, c'est aussi une zone de ponte pour les poissons venus de la mer. Ils viennent, ils passent dans les canaux, c'est là où ils se reproduisent et après ils repartent à la mer.
So two connections, umbilical connections, connection with the sea, connection with the western Ghats.
Donc tous ces backwaters ont deux cordons umbilicaux, l'un qui les relie à la mer et l'autre qui les relie aux rivières.
Most unfortunately, during Green Revolution period, we changed the whole system for rice.
Et ce qui s'est passé dans les années 60, au moment de la Révolution verte, c'est qu'on a changé, on a rompu tout cet équilibre pour pouvoir cultiver le riz.
They started changing the ecology to suit to the technology.
Et that donc, is variety. On a changé l'écologie au nom de la technologie.
So they brought a irrigated rice technology, dwarf variety of rice, changed the variety, brought in variety from the northern India.
Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une culture intensive avec de nouvelles variétés de riz qui ont été faites sur cette zone, des riz apportés du nord de l'Inde.
They started increasing the cropping intensity into two crops of rice.
Et donc on a commencé à faire deux récoltes par an de riz.
When you take rice during summer, salinity in Kashmir is a problem.
Et du coup, quand on faisait des cultures de riz l'été, bah, ça augmentait la salinité de l'eau.
The old varieties used to be resistant to salinity.
Alors que les autres variétés locales de riz étaient résistantes au sel.
New varieties are not tolerant to salinity.
Et pas les nouvelles variétés qu'on a installées.
So, then we'll take varieties. Et
donc on a construit des barrages pour empêcher l'eau salée de venir dans les canaux.
You are using pesticides in large quantity.
On utilise massivement des pesticides.
You keep it stagnant.
On garde toute cette eau stagnante avec les pesticides dedans.
Naturally it will get polluted.
Forcément, ça va se polluer naturellement.
We are so foolish that we keep all this polluted water there. Not allowing for mixing with the sea.
Et on est tellement fou, tellement bête qu'on garde toute cette eau polluée, stagnante, en empêchant qu'elle se dilue dans la mer.
In the name of rice production.
Tout ça au nom de la production rizicole.
Instead of, you know, developing technology to suit to your requirement, your natural situation. You have brought in the technology. Our scientists also have to be blamed.
Et c'est aussi donc une faute aussi des scientifiques qui ont la responsabilité de là-dedans en ayant voulu à tout prix adapter la nature à la technologie et pas l'inverse.
It is just like, you know, changing the, instead of purchasing your shoes to suit your foot, you are just cutting your foot to suit the shoes.
C'est-à-dire plutôt que de changer de chaussure pour trouver une chaussure à ton pied, tu coupais tes orteils pour rentrer dans la nouvelle chaussure.
Change the environment to suit your technology.
Changer l'environnement pour qu'il s'adapte à tes technologies.
Not that you make technology to suit your environment.
Et non pas l'inverse, c'est-à-dire la technologie humaine qui s'adapte à l'environnement.
This production was 16,000 tons.
Avant, la production de poissons était de 16 000 tonnes.
Now it is down to 500 tons.
Maintenant, c'est 500 tonnes.
Fish species was 150.
Il y avait 150 variétés.
Now it is 61.
Maintenant, il n'y en a plus que 61.
Le résultat, c'est que la population souffre, c'est-à-dire que toute la culture au sens, alors pas seulement de la nature, mais de la culture humaine, est menacée actuellement. Parce que le tourisme, en grande quantité, de manière massive comme ça, entraîne des atteintes à l'écologie, mais c'est aussi une certaine corruption sociale. On le voit quand on voit des autochtones. Ils ont juste une petite pirogue, ils sont deux sur la pirogue, tandis que passent d'énormes houseboats pleins de touristes. On voit dans ces images-là que les habitants sont menacés par tout ça, véritablement menacés.
I went to that village into my research station in 1979-80.
Moi, j'ai fait ma recherche de terrain dans ce village-ci dans les années 79-80.
Those days, this was a small village. All the people in that village were, engaged in one occupation or other, in agriculture or fishing.
Et à l'époque, ce petit village, tout le monde travaillait ou dans l'agriculture ou dans la pêche.
You won't see any able-bodied man on the street.
On voyait aucun homme valide se trimballer dans la rue.
Some may be going for toady tapping. Some may be going for fishing.
Peut-être quelqu'un qui allait fabriquer la liqueur d'alcool de bananier, d'autres allaient pêcher.
Some may be going for clam picking.
Et peut-être d'autres qui allaient ramasser des coquillages.
Now tourism, lot of changes. They come there with the thalam to receive the tourists.
Mais maintenant, avec le tourisme, tout a changé. Ils viennent quémander, ils viennent offrir des fleurs pour accueillir les touristes.
They are paid 100 rupees.
Et ils gagnent 100 rupees.
C'est ça. Vous êtes d'accord que le tourisme massif est corrupteur? Il s'agit d'une corruption sociale.
There's not a problem because now nobody. People are not ready to go to the field for rice cultivation.
Bah oui, parce que maintenant les gens ne sont plus prêts à aller travailler au
they
champ.
They take the bag of the tourist.
Ils vont porter le sac d'un touriste.
And show you the hotel.
Ils vont vous montrer où sont les hôtels.
Commission.
Et pour avoir une commission.
Nobody to work in the rice field. Nobody to. Of course, fishing is there because fish is important to the hotels.
La seule chose qui reste, c'est la pêche, parce que la pêche est importante pour les cartes des hôtels.
And all are in booze by 11 o'clock. They get a lot of money in their hands.
Comme ils ont beaucoup d'argent, à 11 heures du soir, ils sont tous ivres avec de l'agneau.
Now you see all people on the street throughout the daytime.
Voilà, et on voit des gens traîner dans les rues pendant toute la journée.
Formerly they were not on the streets, they were in the field working.
Alors qu'auparavant, ils étaient toujours en train de travailler au champ.
Ce que vous dites là, on peut le dire dans 10 000 endroits, 1 million d'endroits dans le monde. Exactement le même scénario en Thaïlande, en Espagne, je peux vous raconter 1000 endroits que je connais. Mais on ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra pas au bon vieux temps où tout était équilibré. Quelles sont les pistes aujourd'hui? Quelles sont les solutions d'un développement humain, socialement acceptable et politiquement acceptable?
Tourism should support the indigenous people.
Les touristes devraient aider les autochtones.
Their livelihood.
Leur mode de vie.
the production system.
Leur système de production.
And actually, you know, I would say agrotourism is one mechanism.
Et par exemple, un des moyens possibles, je trouve, c'est l'agrotourisme.
And then organic producers that could be sold to the tourists.
Avec des produits bio qui puissent être vendus aux touristes.
Hotels depending on the local production.
Des hôtels qui achètent à la production locale.
And then the tourism that supports the local ecology and, you know, culture.
Et un tourisme qui aide l'économie et la culture locale.
This is possible.
Ça, c'est possible.
Welcome to the enchanting voyage through the backwaters. A magnificent houseboat, like a graceful swan. Lakeshore Palace Houseboat. Here, life is calm. Life is simple. Life is beautiful. The sound of silence. The never-ending water. The elixir of life. Miles and miles of cool blue water. Soft ripples. It's really a great experience to enjoy the beauty of backwaters of Kerala by traveling in the houseboat.
Our, you know, old saying in India is that it is worse to think about dependence on others.
Oh non, on n'a jamais aimé dépendre des autres.
Nijam Parajivanam.
Il y a une expression malayalam qui dit qu'on dépend de la production de quelqu'un d'autre.
It's the worst thing.
Et c'est la pire des choses.
We are in the worst days. We depend on others for food. We depend on others.
Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, on dépend des autres pour la nourriture.
You know, it can be, it should be produced locally.
Tout ce qui vient d'ailleurs, on devrait pouvoir produire localement tout ce dont on a besoin.
Oui, mais ça fait un bout de temps, ça fait au moins 40 ans que les écologistes parlent de relocalisation, de relocaliser la production agricole, en l'occurrence, au moins pour des raisons d'environnement, les transports, les histoires des cerises qui font des dizaines de milliers de kilomètres avant d'arriver sur votre table. Évidemment que c'est un gâchis faramineux. Nombreux sont ceux qui militent pour une relocalisation. Votre idée, elle s'inscrit là-dedans, dans l'idée de la relocalisation.
Not centralization, localization. Pas le centralisme, au contraire,
because
la relocalisation.
Localization is the best method to counter globalization.
La relocalisation est la meilleure contre-attaque à la globalisation.
Ok, so you
c'est clair.
Produce locally, think globally, but act locally.
Produire localement, penser globalement et agir localement.
C'est un penseur français qui a dit ça, hein. Penser globally, agir local. Ok. See, what is there, you know, you need to have productivity. You have to have a compromise.
Bien sûr qu'il faut de la productivité, mais il faut trouver un compromis, un équilibre.
Profitability.
Entre le profit, la productivité.
Then diversity.
Et la diversité.
Then recycling.
Et le recyclage.
So you get a quadrilateral with four sides.
Ça fait un quadrilatère à quatre coins.
When all these things combine in your production system, you can tell it is sustainable.
Et quand tout ça trouve un équilibre dans votre système de production, on peut dire que c'est un développement durable.
Obligatoirement, vos idées, les constats que vous avez faits, les recherches que vous avez faites, aboutissent à une critique radicale du capitalisme. You have to be against, if that is so. If that is capitalism,
si
I'm
c'est ça le capitaliste, bien sûr qu'il faut être contre ça.
Mais c'est ça le capitalisme. You have money in your pocket, I would say you have no peace.
Moi je dis, si tu as de l'argent dans ta poche, ça ne t'apporte aucune paix.
If money is in your mind, you will never have peace.
Si tu n'as que l'argent en tête, tu n'auras jamais la paix.
So, only thing is that you do this Gandhi test every time.
Pour chaque action, chaque geste qu'on fait, il faut avoir ce test gandhien à l'esprit.
You should think about the poorest of the poor.
Il faut penser aux plus pauvres parmi les pauvres.
When you are in doubt,
if
it is beneficial to the poorest of the poor you have ever seen, go ahead.
Si ça profite aux plus pauvres parmi les plus pauvres que tu vois, alors faut aller de l'avant.
Merci au professeur Padma Kumar qu'on vient d'entendre. Merci à Guy Vantil pour ce reportage. Traduction Padma Natarajan et Rias Babou. Catherine Pinto a assuré le montage. Bina Rajit Sunil, merci à vous. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Gilles Gaillard et Eric Mavien étaient à la technique aujourd'hui. Koyen Vienne et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission. Assisté d'Agnès Lebot et Catherine Pinto, encore elle. Attends vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.
France Inter et le théâtre Nanterre-Amandier présentent jusqu'au 10 février deux voix d'après un texte de Pasolini. À la fin d'un dîner bien arrosé, une tablée de la haute société, ivre d'elle-même, devise sur le sort de l'humanité et révèle la face cachée d'un monde titubant. Retrouvez deux voix dans les émissions de France Inter.
16h35 secondes sur France Inter. On se retrouve lundi à 15h pour la basse. J'y suis, cette fois on ira à la rencontre des Naxalai dans le Chattisgarh. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bois. Salut!
On fait des batailles de boules de neige dans de nombreuses villes du sud-est cet après-midi à Arles, par exemple, où les trottoirs sont recouverts d'une couche de 15 à 20 cm de poudre blanche. Arles, où 15 000 personnes sont par ailleurs privées d'électricité. À Avignon, on profite d'autant mieux de la neige que toutes les écoles primaires ont fermé aujourd'hui. 41 départements sont en alerte orange jusqu'à demain 18h et c'est dans la vallée du Rhône que la soirée et l'après-midi s'annoncent particulièrement neigeuses. À noter qu'il y a des retards sur les TGV dans certains aéroports, renseignez-vous. Et puis il y a toujours beaucoup de problèmes sur les routes, en particulier pour les routiers. On fait un nouveau point avec vous, Marine Chailloux. Vous êtes en direct au PC de Rosny-sous-Bois. Avec la fermeture de l'A55 dans les Bouches-du-Rhône à Marseille et les peines Mirabeau, fermeture dans les deux sens, l'autoroute est coupée à tous les véhicules en raison des fortes chutes de neige. Sinon, c'est difficile en direction de Lyon et les poids lourds sont interdits de circulation sur l'A6, l'A31, l'A36, l'A39 avec des mesures de stockage. Dans la Loire, ils sont arrêtés sur l'A72 à la barrière de Vauchette en direction de Lyon et sur l'A51. Stationnement obligatoire à Mérac dans le sens Aix-en-Provence-Sisteron. Sur la 7 et la 8, les mesures de stockage sont progressivement levées entre Coudoux et Vitrolles. Sur la 7 et entre Aix-en-Provence et Coudoux sur la 8. Mais attention, la neige tient toujours au sol et ces deux axes restent donc très délicats. Et puis, à noter qu'il y a 2 km de bouchons à La Turbie en direction de l'Est sur la 8, et puis sur la 9, là encore, des zones de stockage provoquent des ralentissements en direction de Lyon et d'Orange, notamment à Sigean et Agde, avec 20 km de retenue. Autour de Nîmes, ça va un petit peu mieux, mais entre Narbonne et Montpellier, la circulation reste interdite sur la 9, et pour passer la frontière espagnole, justement par la 9, là par contre, ça a rouvert dans les deux sens, donc tout va mieux au niveau de la frontière espagnole.
Merci Marine. On vous retrouvera bien entendu dans le flash de 17h. Les ministres de l'Intérieur Brice Hortefeux et celui de l'Éducation nationale Luc Chatel sont attendus au lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre en banlieue parisienne. Lycée sous le choc après l'agression ce matin d'un jeune de 18 ans. Il a été poignardé par l'un de ses camarades lors de la pause de la matinée après une dispute. Le différend concernerait l'une des sœurs des deux garçons. La victime a été touchée dans la région du cœur. Elle est hospitalisée à l'hôpital Henri Mondor de Créteil dans un état jugé très grave. Son agresseur est toujours en fuite. À Marseille, une explosion dans un immeuble a tué une femme de 75 ans et a blessé 4 autres personnes aujourd'hui. Il pourrait s'agir d'une explosion de gaz. Le drame s'est produit dans le premier arrondissement de la ville, dans un quartier où il reste un grand nombre de logements vétustes. Si le texte est ratifié, le Portugal sera le 6e pays européen à autoriser le mariage entre homosexuels après la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et la Norvège. Le Parlement portugais a adopté un projet de loi en première lecture, mais a rejeté les amendements leur ouvrant le droit à l'adoption. En Égypte, la police dit avoir arrêté les responsables de la fusillade de mercredi contre la communauté chrétienne copte de Naga Hammadi, fusillade qui a fait 7 morts et qui a provoqué des émeutes en ville. La tension y reste palpable, les boutiques sont restées fermées aujourd'hui et la police est très présente en ville. Le constructeur automobile suédois Saab a été placé en liquidation judiciaire, information communiquée par le principal syndicat suédois de l'industrie, IF Metall, qui dénonce dans un communiqué une décision irresponsable. Et puis l'Américain Andy Roddick, tête de série numéro 1, a mis fin au parcours du Français Richard Gasquet au tournoi de tennis de Brisbane en Australie. Il s'est imposé 6-3, 7-6 en quart de finale.
La librairie francophone, Emmanuel Kerad.
Cette semaine, nous reviendrons sur les auteurs qui ont marqué l'année 2009 avec les choix de nos libraires. Vous entendrez également Kossi et Fouy qui a reçu le prix des 5 continents de la francophonie. Les membres du jury réagiront à notre micro. Et puis nous irons dans une librairie pour un entretien exceptionnel avec le grand poète libanais Salas Tétier, un moment rare enregistré à Beyrouth.
La librairie francophone, Emmanuel Kerad, tous les samedis à 17h.
France Inter présente Michel Piccoli et Pauline Étienne dans Le Bel Âge, un film de Laurent Perrault, actuellement au cinéma.
J'ai une petite
petite fille. Elle s'appelle Claire. Un fort tempérament.
Claire, jeune fille de 17 ans, vit seule dans une grande demeure avec son mystérieux grand-père. Ils sont fiers et insoumis. Elle en quête d'avenir, lui tourmenté par son passé. Ils sont tous les deux dans le bel âge. Retrouvez le bel âge dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter,
la différence.
Il est 16h05, l'après-midi se poursuit en musique avec vous, Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Tous, comme chaque année, l'Académie Charles Cros, il paraît qu'on disait Charles Cros, aujourd'hui on dit Cros, mais vous savez qu'on gomme un petit peu maintenant certaines prononciations, et quelquefois il fallait parler plus fort quand on était moins dans les villes, vous voyez, on dit moins maintenant, quand il fallait se parler à distance, on articulait plus et on disait plus les finales, donc Charles Cros, inventeur, et poète aussi, c'est lui qui aurait été un des co-inventeurs du phonographe. Eh bien, on décerne en son nom des prix. Et un des grands gagnants cette année, ça a été Aldo Ciccolini. J'ai eu le résultat par Odile Martin, responsable d'édition sur France Inter. Vous entendez parfois délivrer les flashs d'informations. Elle adore la musique. Je la salue, Odile. Et donc, Aldo Ciccolini, on publie un coffret énorme, des enregistrements chez EMI, entre 1950 et 1991, 56 CD, et ben voilà, c'est un maître toujours jeune, né en 1925, et je peux vous dire qu'il joue toujours admirablement. Voici d'abord les propos d'Aldo Ciccolini à propos de Chopin, sur Chopin. Je me suis toujours écarté d'une certaine manière de jouer Chopin que je trouve indécente. Il mérite notre amour, mais aussi notre respect. Gardons-nous de cette déplaisante manie de l'utiliser pour se plaindre de nos malheurs. Il ne faut pas oublier que Chopin est avant tout une grande âme. Ce n'est pas parce que Chopin était malade qu'il faut lui donner ce caractère de jeune fille souffreteuse. La troisième sonate et même la deuxième sont les pièces d'un homme en pleine possession de ses moyens. Jouer Chopin de manière hystérique, c'est faire de lui ce qu'il n'était pas. Mais l'interpréter de manière trop morale, c'est une erreur. Tous les musiciens sont amoraux. La musique morale est un des visages de l'ennui. Ah ben je laisse au cher Aldo ses conclusions, mais de toute façon, je suis prêt, comme vous, à l'admirer dans la grande valse brillante opus 34 de Frédéric Chopin.